Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition consacrée au chantier permanent qui est celui de la paix dans le monde. Il y a quelques jours se tenait la deuxième édition du Forum de Paris sur la paix. La première édition, il y a un an, s'était adossée aux commémorations du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Objectif de ce forum, réaffirmer l'importance du multilatéralisme et de l'action collective face aux défis du monde contemporain. Faire avancer la paix, c'est aussi le sens des déplacements du pape François actuellement en visite au Japon, à Nagasaki et Hiroshima, théâtre en août 45 de l'explosion de deux bombes nucléaires qui firent quelque 400 000 morts, dont plus de la moitié tués sur le coup. Le pape François, qui est extrêmement sensible à la question de l'usage et de la détention des armes nucléaires, dans un message adressé au peuple japonais avant son déplacement, le souverain pontife faisait part de son souhait que le pouvoir destructeur des armes nucléaires ne soit plus jamais déclenché dans l'histoire humaine, qualifiant d'immoral l'utilisation des armes nucléaires. La paix dans le monde, un objectif illusoire. C'est la question que nous posons à nos invités pour cette édition réalisée en partenariat avec la revue Question Internationale, dont le dernier numéro a pour titre « La paix, illusion et réalité ». Nos invités, Serge Sûr, rédacteur en chef de Question Internationale, professeur émérite à Paris 2 et directeur de l'annuaire français des relations internationales, bonjour.
Bonjour.
Philippe Moreau-Defarge, géopoliticien, ancien chercheur à l'IFRI, bonjour.
Bonjour Marie-France.
Et Jean-Paul Chagnolot, professeur émérite des universités, président de l'IREMU, l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranéennes. Moyen-Orient. Bonjour.
Bonjour.
Géopolitique était justement à Hiroshima il y a quelques jours. Hiroshima qui fut destinataire de la première bombe atomique lancée par les Américains. Ça s'est passé le 6 août 1945. Il était 8h15 du matin. Celle de Nagasaki explosa trois jours plus tard, le 9 août. Plus de 400 000 personnes tuées, je le disais en introduction, dont plus de la moitié sur le coup. Géopolitique a rencontré une survivante du 6 août 1945. Emiko Okada avait 8 ans ce jour-là.
J'étais à la maison dans un rayon de 2,8 km de l'hypocentre. Après la levée de l'alerte aérienne, ma mère, mes deux frères et sœurs et moi étions en train de prendre notre petit déjeuner. Je me souviens de l'avion qui est passé et tout de suite, j'ai vu un flash. J'ai été emportée par l'explosion à l'extérieur de la maison. J'ai perdu connaissance. Lorsque j'ai repris mes esprits, j'ai vu ma mère grièvement blessée. Il y avait des morceaux de verre partout dans son corps. Autour de moi, des personnes erraient, ressemblant plus à des fantômes, avec les cheveux hérissés, la peau tombante, les os qui sortaient du corps. Partout, les gens demandaient de l'eau. Plus tard, je suis allée à mon école. Tout avait brûlé. J'ai vu les filles qui essayaient de s'extirper du lieu. L'une d'elles a attrapé mon pantalon. Je l'ai repoussé. Elle criait « Maman, maman !» Au bout d'un moment, elle a disparu dans le feu écarlate. Il y avait d'autres enfants qui demandaient du secours dans cette école totalement brûlée. Aujourd'hui, chaque fois que je vois le coucher du soleil, je me souviens du feu rougeoyant de l'école. Je me souviens aussi qu'il y a des personnes que je n'ai pas aidées. À chaque coucher du soleil que je vois, je leur demande pardon. Je n'ai jamais revu ma sœur, qui était partie tôt de la maison ce matin-là. J'ai eu beaucoup de haine pour les Américains.
Toujours aujourd'hui ?
Cela fait 74 ans. Au lieu de se pencher toujours sur la haine, je préfère regarder le futur, mes enfants, mes petits-enfants. Parce qu'on ne peut pas revenir sur le passé. Parler de la paix dans le monde ne suffit pas. Il faut passer à l'acte, construire l'avenir.
Quelques mots peut-être sur la volonté de témoigner qui est la vôtre et peut-être aussi comprendre ce qu'a été la vie d'une Hibakusha, comme on vous appelle. Vous êtes des témoins de la bombe atomique. Vous avez eu un sentiment profond de stigmatisation. Comment les choses se sont passées pour vous ?
Il y a de la discrimination autour des Hibakusha. Les Hibakusha ne pouvaient se marier ni avoir des enfants. Il y avait aussi l'aspect physique à cause des brûlures. Physiquement, on est un peu considérés comme des fantômes. Ce fut très difficile. Pendant plusieurs années, j'ai caché le fait que j'étais une Ibaksha. Il y a aussi les cancers. 100% des Ibaksha sont atteints de cancers de toutes sortes. Estomac, gros intestin, chez les femmes, cancer des seins. Nous avons tous été exposés aux radiations. Moi-même, j'ai été opérée 2 fois d'un cancer de l'estomac.
La volonté de témoigner vous est venue à quel moment dans votre vie ?
C'est grâce à une Américaine, Barbara Reynolds. Chaque fois que les Américains entendent les témoignages des Ibaksha, ils disent tous « Ah, mais c'est vous qui avez commencé en attaquant Pearl Harbor ». Avec cette Américaine, Barbara, c'était différent. Elle m'expliquait que oui, bien sûr, on pouvait facilement entamer une guerre avec violence en utilisant des armes militaires. Construire la paix est plus difficile. Il faut beaucoup de dialogue, de tête à tête. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'être témoin comme Ibaksha.
Alors j'ai une dernière question. Est-ce que la bombe atomique était nécessaire ?
Non, absolument pas. On travaille pour abolir l'arme nucléaire dans le monde. Il faut supprimer les armes nucléaires.
C'était le témoignage d'Emiko Okada qui avait donc 8 ans le 6 août 1945 lorsque la bombe fut larguée sur Hiroshima. Hiroshima qui fut totalement détruite à l'exception de 3 bâtiments en pierre. Et il faut savoir que le feu atomique, c'est une température qui atteint entre 3 et 4 000 degrés. En 10 secondes, la ville fut détruite. Tout a été soufflé dans un rayon de 2,5 km. Hiroshima, bien sûr, s'est reconstruite très lentement au départ par manque de fonds. J'ai demandé à Kazumi Matsui, le maire de la ville d'Hiroshima, si Hiroshima se sentait toujours victime aujourd'hui. Les années passant, la mémoire s'estompe, les sondages sont là pour dire que les événements d'Hiroshima et Nagasaki sont loin d'être connus de tous dans le monde, de l'importance donc que la mémoire soit conservée. Kazumi Matsui.
On ne se sent pas victime. On sent qu'on a le devoir de transmettre ce qu'on a vécu à Hiroshima. Notre ville a été complètement détruite par la bombe atomique. Beaucoup de vies ont été perdues aussi. Il y a encore des gens qui souffrent de différentes séquelles de la bombe atomique. On a le devoir de transmettre ces faits. Certains ont estimé qu'il fallait demander des excuses aux Américains à l'occasion de la visite d'Obama en 2016. Ça, c'est l'opinion des gens qui se sentent victimes. Mais ce n'est pas l'opinion générale de la ville d'Hiroshima. Nous sommes plus futuristes. On est là pour faire mieux connaître l'expérience qui a été la nôtre avec la bombe, les dégâts que nous avons subis. L'âge moyen des survivants atteint maintenant 82 ans. Nous avons de moins en moins de témoins qui peuvent parler de vive voix.
Alors vous parlez du président Obama. Il y a dans cette pièce une photo de vous avec le président Obama à l'occasion de sa visite en 2016. À défaut d'excuses, est-ce qu'on peut analyser le déplacement de Monsieur Obama comme une forme de respect ?
Effectivement, c'était important pour nous, cette visite d'un président américain en exercice. Il a vu en personne ce que notre ville a vécu. Excuse, pas excuse, je ne dis pas que c'est important ou pas important. Il a dit clairement que ce genre de tragédie ne doit plus se produire. C'est quelque chose d'important comme message de la part d'un président américain. Il a écouté les survivants et dit qu'il ne fallait jamais plus faire vivre cette expérience à quiconque.
Qu'est-ce que, d'après vous, les touristes qui viennent à Hiroshima viennent chercher, touristes japonais d'une part et touristes du monde entier, est-ce qu'il y a ne serait-ce que des différences ?
On travaille pour le développement de la ville d'Hiroshima comme symbole de la paix. J'espère que les touristes japonais et étrangers ressentent cette approche qui est la nôtre. Le dôme est classé monument du patrimoine mondial. Nous avons aussi un sanctuaire magnifique qui s'appelle Itsukushima. Les touristes viennent pour rechercher de beaux paysages et aussi l'histoire. L'histoire d'Hiroshima est très riche. Les touristes viennent pour ressentir la paix dans la ville et voir les paysages.
Le monde connaît des périodes successives de paix, de guerre. Il y a plus ou moins des tensions selon les continents. Quel message vous auriez envie de transmettre aujourd'hui depuis Hiroshima ?
Il est vrai que quand on voit ce qui se passe dans les différentes régions, il y a les guerres, les conflits, les massacres. Je pense que c'est souvent dû aux frontières qui séparent les pays, qui sont la cause de ces conflits. Sous prétexte de défendre l'intérêt du pays, même si ce n'est pas en faisant la guerre militaire, c'est l'arme économique qui est utilisée, ou l'arme nucléaire comme force de dissuasion. J'ai envie de dire aux gens, avec l'utilisation de l'arme nucléaire, vous allez arriver à ce que nous avons vécu à Hiroshima. La destruction complète de la ville, beaucoup de vies perdues. Je voudrais dire que l'utilisation de l'arme nucléaire est un acte inutile et même irrationnel, puisque nous sommes tous dans le même bateau, sur la même planète. Il faut construire des sociétés qui partagent les mêmes valeurs de paix. Il faut du dialogue, des discussions. C'est important de préparer un environnement où personne n'a envie d'utiliser ou même de produire l'arme nucléaire.
Kazumi Matsui, le maire d'Hiroshima, rencontré il y a quelques jours dans ses bureaux. Commentaire ici en studio, Jean-Paul Chagnolot, Serge Sûr, Philippe Moreau de Farge, Serge Sûr.
Alors évidemment, on ne peut qu'adhérer à la douleur de cette femme et on ne peut qu'approuver le plaidoyer du maire de Hiroshima. Mais l'arme nucléaire, là-dessus, je voudrais faire deux observations. Premièrement, elle est très ambiguë parce que Hiroshima, bien sûr, c'est quelque chose de monstrueux, mais ça a mis fin à la guerre. Hiroshima a permis de rétablir la paix. Et les prévisions ou les spéculations américaines étaient que si on n'avait pas employé l'arme nucléaire, la guerre aurait pu se prolonger jusqu'en 1947 et en définitive provoquer beaucoup plus de victimes. Pas seulement des victimes civiles, même peut-être essentiellement des victimes des soldats, mais il n'en demeure pas moins qu'elle aurait créé beaucoup plus de victimes. Et en ce qui concerne l'arme nucléaire, aujourd'hui, la doctrine de la dissuasion a probablement permis de maintenir la paix entre l'Occident et l'URSS. Alors évidemment, il est très difficile de déterminer la cause des événements qui ne se sont pas produits, puisqu'il n'y a pas eu de conflit. Mais de façon générale, il faut observer que la conflictualité a été beaucoup moins forte entre 1945 et 2020, pendant les 75 ans qui viennent de s'écouler, qu'entre 1870 et 1945. Donc il y a eu globalement une diminution de la conflictualité. Et deuxième observation, on ne peut pas réduire la question de la paix à celle des armes nucléaires. Parce qu'aujourd'hui, les victimes des conflits, ce sont beaucoup plus les victimes de conflits asymétriques ou de conflits hybrides qui mettent en jeu des acteurs non étatiques. C'est là où se trouve la véritable violence internationale aujourd'hui.
Alors, bien sûr, c'est simplement le hasard du calendrier qui a voulu la possibilité de cette interview avec cette survivante d'Hiroshima. Il n'est évidemment pas question de réduire la question de la conflictualité aux armes nucléaires. Ceci étant, il y a un vrai débat. Les historiens, en tout cas, continuent de débattre aujourd'hui sur le bien fondé de cette bombe lancée sur Hiroshima et Nagasaki.
Mais les motivations de Truman sont bien connues. Il y en avait deux fondamentales. Premièrement, il ne voulait pas répéter un débarquement comme le débarquement de Normandie. Il ne voulait pas. Il y a une deuxième motivation qui est moins noble, c'est qu'il voulait dire à Staline, regardez ce qui se passera si vous voulez nous attaquer. Parce qu'on était déjà dans une logique de guerre froide en 1945.
Jean-Paul Chagnolot.
On peut longuement discuter de ce qui s'est passé et des motivations de Truman. Moi, ce qui me préoccupe le plus, en fait, c'est pas simplement l'histoire, c'est pas simplement la mémoire, c'est l'avenir. Et de ce point de vue-là, nous sommes aujourd'hui entrés, depuis pas mal de temps maintenant, dans l'ère que j'appellerais de la prolifération. Parce que on a des règles qui ont été fixées, posées, par le traité de non-prolifération des armes nucléaires, qui entre en vigueur en 1970, qui était signé en 68, et qui prévoyait que les États qui n'ont pas l'arme nucléaire ne l'acquièrent pas, mais aussi que ceux qui l'ont, c'est-à-dire les cinq puissances du Conseil de sécurité, eh bien, s'engageaient, il y a l'article 6 du TNP, vers un désarmement général, c'est-à-dire des négociations de bonne foi, enfin, et c'est ce qui s'est passé pendant quelques années, je ne sais pas si c'était de bonne foi, en tout cas, il y a eu des négociations. Et aujourd'hui, il n'y en a plus. Bush est sorti de l'ABM, Trump sort des FNI, donc on n'a plus aujourd'hui de système de régulation. Et je pense que c'est grave. Le seul personnage qui a joué un rôle important ces dernières années, qui l'a porté véritablement, ça a été Barack Obama. Il a fait un discours magnifique à Prague, c'était il y a 10 ans, en 2009. Et puis, il a aussi réussi à signer l'accord sur le nucléaire avec l'Iran. Donc, je crois qu'il y avait cette dimension avec Obama. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on a un peu perdu. Donc, c'est une vraie préoccupation, je crois, pour les relations internationales contemporaines.
Il y a quand même deux questions qu'il faut soulever. La première question, c'est le TNP. Le TNP pose un véritable problème parce
traité de non-prolifération.
Le traité de non-prolifération de 1968 auquel Jean-Paul Chagnolot s'est référé. C'est un traité inégal qui distingue ceux qui ont l'arme nucléaire et ceux qui ne l'ont pas. Et il y a quelque chose de très problématique dans un monde fondamentalement démocratique. Je crois que l'une des grandes tensions du monde actuel, c'est cette tension entre la dynamique démocratique ou multilatérale et l'inégalité que pose le traité d'Arles. Deuxièmement, vous avez tout à fait raison, ce dispositif est en train de tomber en miettes. Mais on voit bien que pour que le droit fonctionne, il faut que, disons, les partenaires aient de la bonne volonté. Elle n'existe plus, cette bonne volonté, aujourd'hui. Parce que le nouveau monde de la paix n'arrive pas à effacer le vieux monde de la guerre.
Serge Sûr.
Alors là-dessus, je voudrais dire d'abord que le TNP est certainement un grand traité malade. Mais c'est un grand traité. Parce qu'il reste tout de même la charte de la non-prolifération. Ensuite, je voudrais tout de même contester l'expression de traité inégal. C'est un traité asymétrique, ce qui n'est pas la même chose. Parce que les puissances non nucléaires obtiennent en contrepartie une garantie que leurs voisins ne prolifèreront pas et des garanties des puissances nucléaires. Donc, pour la plupart, ils l'ont accepté volontairement. Deuxièmement, pour ce qui est de l'article 6. L'article 6, il prévoit le désarmement nucléaire dans le cadre d'un désarmement général et complet sous un contrôle international effectif.
Exactement, c'est le deuxième élément de l'article 6.
Mais bien sûr, autrement dit, il faut aussi que les puissances non nucléaires désarment. C'est pas simplement le désarmement nucléaire, c'est le désarmement dans son ensemble. Or, elles n'ont pas désarmé. Et c'est là l'axe de défense des puissances nucléaires, c'est de dire, nous voulons bien faire des efforts, mais les autres doivent en faire aussi. Or, ils n'en font pas. Et il faut constater que malgré, vous avez tout à fait raison, la destruction de l'arms control, les 30 glorieuses en quelque sorte de l'arms control, entre 60 et 90, ont été détruites, et principalement par les États-Unis. Il n'en demeure pas moins qu'il y a eu des réductions considérables des armements nucléaires. Non seulement la France, mais également la Russie et les États-Unis ont réduit fortement leurs arsenaux nucléaires. Ce qui est peut-être le plus inquiétant, c'est qu'on se dirige vers une miniaturisation, une diversification des armes, et qu'elles deviennent non plus des armes de dissuasion, mais des armes de combat. C'est peut-être là ce qui est le plus inquiétant.
Jean-Paul Chagnolot.
Oui, je crois qu'il y a deux questions. Il y a la question du droit, mais la question du droit, évidemment, ça veut dire une question politique. Le droit international, c'est porté par une volonté politique. Or, aujourd'hui, dans le monde actuel, il n'y a plus d'acteurs qui portent la volonté d'aller vers une non-prolifération. Enfin, à ma connaissance, le dernier discours important qui traçait une vision, une voie, c'était Barack Obama à Prague, il y a 10 ans maintenant. Bref, on est dans cette situation-là. Et puis, ce que vous disiez, c'est juste, c'est-à-dire qu'il y a cette, pour moi, aujourd'hui, une absence de volonté politique. Mmh. Et par ailleurs, il y a une technologie de plus en plus élaborée, de plus en plus sophistiquée. Donc, on n'est plus seulement dans les stratégies de dissuasion avec des engins très, très puissants. On est dans des stratégies qui peuvent devenir des tactiques utilisables. Et on ne sait plus, peut-être, bientôt, où sera la frontière entre une dimension tactique d'utilisation des armes nucléaires et une utilisation stratégique. Et donc, c'est extrêmement préoccupant. Et je pense que la technologie qui se développe à toute allure, n'est plus maîtrisé du tout, puisqu'il n'y a plus de volonté politique non plus. Donc je crois qu'on est vraiment dans une situation qui est problématique, et au fond, on s'y intéresse très peu. Votre témoignage me paraît vraiment intéressant, parce que ça rappelle ce que pourrait être une apocalypse nucléaire locale ou plus globale.
Non, mais, Philippe Moreau de Farge.
Ce que dit Serge Sûr, il dit deux choses, moi j'ai trouvé un peu différentes. Premièrement, il dit qu'il y a eu un désarmement, une réduction des armes nucléaires, je vois très bien. Et en même temps, il a parlé de miniaturisation, de transformation. Donc on voit que les armes se métamorphosent en permanence. Parce que d'un côté, il y a une logique, il y a eu longtemps une logique de contrôle des armes, de les maîtriser, c'est les accords SALT par exemple, mais aussi les militaires, eux, veulent adapter ces armes. Et quelque part, ils veulent qu'elles servent à quelque chose. Je vous rappelle un débat des années 80 qui est un peu différent, c'était la bombe à neutrons. La bombe à neutrons était devenue l'arme idéale. On allait l'utiliser. C'est une forme de bombe nucléaire qu'on pourrait utiliser sur le champ de bataille parce qu'elle tuait les hommes, mais elle ne détruisait pas les bâtiments. Donc il y a un jeu sans fin. Moi, ce que je crois, c'est ça la difficulté, c'est que la violence des hommes se métamorphose en permanence. C'est-à-dire qu'au fond, on a eu une espèce de globalisation de la violence avec la prééminence américaine et soviétique. Et puis maintenant, on voit qu'il y a une fragmentation, un éclatement de la violence parce qu'elle n'appartient plus aux États, mais elle appartient à une multitude d'acteurs privés.
Bien sûr, les machettes ont suffi à faire. Des centaines de milliers de morts au Rwanda, bien entendu. Exactement.
C'est le problème général du désarmement, c'est que on peut faire avec la révolution avec des manches de pioche. Alors, je voulais quand même revenir sur le.
Un peu rapidement, parce qu'on a 30 secondes, et je vous redonnerai la parole dans la deuxième partie de l'émission, bien
terminer,
sûr, Serge Sûr.
Il y a tout de même eu, en 2017, le traité sur l'interdiction complète des armes nucléaires, qui a été adopté par l'Assemblée générale et signé par plus d'une centaine d'États.
Sauf les États-Unis. Aucune puissance nucléaire ne l'accepte.
Mais je veux dire, il y a tout de même une pression diplomatique qui est conduite par les puissances non nucléaires. Et puis, de façon plus générale, et ça nous permet peut-être de sortir du nucléaire, pour que la paix existe, il faut que la confiance existe entre les États. Et la caractéristique principale des relations internationales aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de confiance. Nous vivons dans un monde de méfiance, dans un monde d'unilatéralisme, et là est un danger évidemment belligène considérable.
Alors on vous retrouve bien sûr dans la deuxième partie de l'émission, on va développer tous ces sujets. Nous retrouvons donc Serge Sur, Philippe Moreau de Farge et Jean-Paul Chagnolot après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la paix. Nous retrouvons nos invités Serge Sur, rédacteur en chef de Questions internationales, dont le dernier numéro a pour titre « La paix, illusions et réalités ». Serge Sur, qui est professeur émérite à Paris 2 et directeur de l'annuaire français des relations internationales. Philippe Moreau de Farge, géopoliticien, ancien chercheur à l'IFRI. Et Jean-Paul Chagnolot, professeur émérite des universités, président de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Ce numéro de questions internationales, Serge Sur, finalement, révèle la difficulté à définir la paix. Elle n'est pas facile, cette définition, vous l'expliquez dans cette édition de questions internationales. Est-ce qu'elle est absence de guerre, absence d'usage de la force armée? Il y a aussi différentes formes de paix, la guerre froide, la paix froide. Il n'est pas rare non plus qu'après avoir officiellement fait la paix, deux groupes demeurent hostiles, voire agressifs l'un envers l'autre, de sorte qu'en réalité, il n'y a aucune entente entre eux. On peut parler de paix froide, c'est peut-être la relation entre Israël et l'Égypte. On parle aussi de paix négative pour qualifier la situation entre la Turquie et la Syrie, la Chine et l'Inde, la Serbie et le Kosovo. Bref, définition de la paix, c'est pas facile, Serge Sur.
Absolument, et d'ailleurs l'ouverture est intitulée 50 nuances de paix, parce qu'il y a beaucoup de formes de paix. Alors on peut dire qu'il y a une aspiration permanente et universelle à la paix. Et Philippe Moreau de Farge a traité de l'idée d'organiser une paix durable, prolongée. La paix ne s'instaure pas de façon spontanée. Il faut qu'il y ait des projets organisés pour la mettre en œuvre. Et ces projets, ils sont multiples. Éventuellement, ils sont contradictoires. Et lorsque vous avez, par exemple, la paix qui repose sur l'équilibre, ça se heurte évidemment à la paix par l'Empire. Et donc, ces projets sont en contradiction l'un avec l'autre et provoquent des guerres particulièrement intenses. Ce qu'on a vu avec la politique de Louis XIV, de Napoléon, d'Hitler, alors que, par exemple, les Britanniques ont toujours été les partisans et les parangons d'une politique d'équilibre. De la même manière, la sécurité collective n'est pas la dissuasion nucléaire, elle en est même le contraire. Et donc, la contradiction même des projets aboutit à devenir belligène. De sorte que, lorsque l'on parle de paix, on ne peut jamais oublier l'ombre de la guerre. Nous avons souhaité faire un numéro qui ne traite pas de la guerre et de la paix, mais qui traite de la paix. Et malgré tout, on a bien vu, et l'article de Jean-Paul Chagnolot en est un exemple, on a bien vu que la guerre se réintroduisait toujours dans la paix et qu'elle devenait même, à la limite, une des techniques de paix, ce qui est évidemment un grand paradoxe. Alors, pour la définition, comme vous l'avez rappelé, il y a beaucoup d'états possibles de paix, mais je crois qu'on peut distinguer très sommairement les paix structurelles. La paix structurelle, par exemple, qui existe en Europe, du fait de l'Union européenne, on n'imagine pas que les États membres de l'Union européenne se fassent la guerre mutuellement. Donc là, nous avons vraiment une situation de paix structurelle et qui a été établie par le droit. Les paix coercitives, la paix coercitive, c'est les traités de paix où le vaincu est bien obligé de s'incliner, mais ces paix coercitives, elles sont rarement durables, parce que le vaincu va évidemment chercher à détruire le traité qu'il a amoindri. Et puis, il y a les paix froides, les paix qui se développent dans un climat de méfiance, comme aujourd'hui, elles sont particulièrement fragiles. Mais ça, ça n'est qu'une distinction encore sommaire. On pourrait, comme vous l'avez dit, multiplier les distinctions.
Philippe Moreau de Farge.
Pour prolonger ce que dit Serge, si vous voulez, dans l'idée de paix, il y a quand même deux ruptures, à mon avis, historiques. La première rupture historique, elle est au milieu du XVIIIe siècle. C'est-à-dire au moment où un certain nombre de philosophes, de penseurs réfléchissent à l'idée de contrat social. Ils disent pour qu'il y ait la paix à l'intérieur d'un État, d'une société, il faut un contrat social. Et très vite, il se pose la question du contrat social international. Le projet de paix perpétuelle de Kant est un texte magnifique. Il pose très bien les conditions d'une paix perpétuelle. C'est pas du tout un texte utopique. Donc c'est à cette première rupture qu'il y a l'idée qu'il ne peut y avoir de paix que s'il y a un contrat social planétaire.
Comment définir ce contrat social, Philippe Mandevin?
Ça voudrait dire aujourd'hui, par exemple, que tous les États de la planète, je parle dans l'idéal, tous les États de la planète s'engagent à accepter les mêmes règles, les mêmes obligations, les mêmes devoirs. La Charte de l'ONU est un peu une ébauche de ce contrat social planétaire. Mais il y a une deuxième rupture qui, à mon avis, se produit au moment des deux guerres mondiales. Notamment, on sait que, traditionnellement, la paix, c'est de maintenir le vaincu écrasé. Il faut que le plus fort reste le plus fort. Et à la limite, la seule paix possible, c'est la paix carthaginoise. On détruit le vaincu. Rome détruit Carthage, complètement. Mais néanmoins, il y a toute une réflexion, et c'est le débat de la conférence de la paix en 1919, on dit la paix est possible si le vaincu n'est pas écrasé, mais le vaincu est réintégré. C'est l'idée de Keynes, un peu équivoque. Mais Keynes dit, si nous ne réintégrons pas l'Allemagne dans le système européen, nous n'aurons pas la paix. C'est l'idée, la paix n'est plus de maintenir le vaincu écrasé, mais d'essayer de réintégrer le vaincu en le transformant, ce qui s'est passé un petit peu avec l'Allemagne en 1945.
Alors, Jean-Paul Cianullo, comment transposer tout ce qui vient d'être dit sur une partie du monde que vous connaissez bien, c'est le Moyen-Orient. Dans votre article, j'ai relevé particulièrement ceci. Vous dites que personne n'a pris en compte le désastre provoqué par l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003.
Oui, c'est un des facteurs, mais je crois que quand on évoque à l'instant les États, on a tendance à, en fait, à les idéaliser. Ça devient des acteurs. C'est évidemment les sujets de droit international. Mais quand on regarde de plus près ce qu'est un État, notamment au Moyen-Orient, on a affaire en fait à des privatisations de l'État. C'est tenu par des mafias. La notion de contrat social que vous évoquez, elle n'a strictement aucun sens dans ce monde, et pas simplement au Moyen-Orient, bien entendu. Il y a bien d'autres régions. Donc si on prend les choses telles qu'elles sont, c'est tout à fait différent. Donc là, on est dans des systèmes à la fois de privatisation du pouvoir par des mafias, et qui n'ont donc aucun intérêt à ne pas se situer en rapport de domination, et du coup ça change la nature de la guerre, parce que c'est pas des guerres interétatiques, ce sont des guerres qui sont tout à fait asymétriques, où il y a des acteurs multiples, et ça ressemble un peu quelque part à la guerre de 30 ans, où il y avait des acteurs extrêmement multiples, voilà, on a réussi à en sortir, encore qu'il faut voir. Donc c'est fondé aussi sur ce que j'appelle la segmentation des sociétés, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait fondamental dans une partie du Moyen-Orient, pas partout, mais dans ce que j'appellerais moi l'espace Saïx-Picot, où vraiment on voit bien que en Irak ou au Liban, en Syrie, dans une certaine mesure, on est dans des sociétés très segmentées, où on n'a pas dépassé les clivages ethniques, la question kurde par exemple, et puis les clivages religieux. Donc on a cette dimension-là. Et puis, à partir de tout cela, il y a évidemment, avec tout cela, il y a la récurrence, que j'appelle la récurrence des interventions étrangères. Ça a commencé à l'époque, vous évoquiez Versailles. Alors pour le Moyen-Orient, c'est le traité de Sèvres qui a essayé d'imposer, et en échouant complètement d'ailleurs. Et donc on a des interventions qui sont évidemment dévastatrices, et la dernière en date, parce qu'il y en a eu d'autres auparavant, c'est l'intervention américaine en mars 2003 contre l'Irak, qui a fait imploser l'Irak. Et on voit encore l'image de George Bush qui dit, voilà, on a gagné la guerre. Et c'est très intéressant. Il a gagné la guerre militairement, effectivement. Il n'y a plus d'armée irakienne. Mais c'est un désastre total parce qu'il a fracassé l'État. Il a dissous l'État. Alors là, pour le coup, de manière presque par décret, Paul Bremer décide que ça n'existe plus. On dissout l'État, l'armée. Et ensuite, ça a conduit à une aggravation des divisions segmentaires avec les sunnites qui ont été complètement écartés, qui vont, une partie d'entre eux vont soutenir Daesh, c'est quand même quelque chose qu'il faut rappeler, les chiites qui vont prendre leur revanche, et ça continue aujourd'hui, en prenant le pouvoir, et puis les kurdes qui sont à la fois complètement marginalisés et qui ont retrouvé de l'espoir en s'isolant un peu dans le Kurdistan irakien. Et juste pour l'anecdote, mais j'étais il n'y a pas très longtemps au Kurdistan irakien, et je discutais avec des étudiants irakiens et kurdes. Aucun ne parlait l'arabe. Ils parlaient tous kurde. Toute la génération qui est née après les années 90, ils parlent kurde et pas arabe. Donc, vous avez là, dans un état, entre guillemets, un problème majeur, quoi. Toute une partie de la jeunesse est complètement déconnectée de l'État.
Serge Sûr.
Il faut bien dire que Proche et Moyen-Orient, s'adhèrent tout à fait à ce qui vient d'être dit par Jean-Paul Cianullo. Au Moyen-Orient, il y a deux peuples qui sont sans État, sont les Palestiniens et les Kurdes. Et tant que cette question ne sera pas réglée sur le fond, on ne peut pas dire que le Moyen-Orient connaîtra la paix. De façon plus générale, si on regarde la société internationale, au commencement était la guerre. la guerre a été très longtemps le principe organisateur de la société internationale. Mais en même temps, la guerre, elle ne se gagne pas militairement, elle se gagne politiquement. Parce que l'important, c'est d'arriver à un traité de paix qui rétablisse durablement la paix. Regardez Napoléon, par exemple, il a eu beau gagner toutes les batailles, il n'a jamais réussi à obtenir un traité de paix. Donc il a perdu la guerre politiquement, alors qu'il pouvait penser à multiples reprises qu'il l'avait gagné militairement. Je dirais que on peut traduire ça en reprenant une distinction de Plutarque, qui distinguait les sociétés polémiques et les sociétés politiques. Et ça rejoint l'idée du contrat social de Philippe Moreau Desfarges. La société internationale, ça a été longtemps une société polémique, c'est-à-dire dominée par la guerre. Et on voit bien le Moyen-Orient, c'est exactement ça aujourd'hui. C'est une société polémique. Une société politique, ça suppose précisément qu'il y ait un contrat. Et tout le problème de la société internationale, c'est de transformer une société polémique en société politique. Alors, ça a été le grand effort du XXe siècle, avec d'abord la SDN, puis la Charte des Nations Unies, dont on peut dire qu'elle crée une société politique. Mais elle n'a pas réussi à éliminer la guerre. Même si on la chasse par la porte, elle revient par la fenêtre. On le voit bien avec les guerres hybrides, avec les acteurs non étatiques. Finalement, l'érosion du monopole de la violence légitime utilisée par les États. Et c'est peut-être le principal facteur, c'est la défaillance des États.
Alors, Philippe Moreau Desfarges, après ça,
D'abord, la Charte de l'ONU est quand même un texte très sous-estimé. C'est un très grand texte, c'est vraiment l'ébauche d'un pacte social planétaire. Deuxièmement, on voit bien, c'est la question qu'a soulevée ce sujet est très importante, c'est le monopole de la force légitime par les États. Or, on voit bien que, au fond, ils la perdent de deux manières. Ils la perdent vers le haut, parce que au fond, ils ne sont plus capables de gérer la guerre et de le faire. Et qu'il faut, d'où l'idée du Conseil de sécurité qui pourrait être le genre d'argument. Mais ils la perdent par le bas. C'est la privatisation de la violence. On voit bien que le monopole de la violence légitime est très mis en cause. Quand on dit les banlieues sont une jungle, ça veut dire quelque chose comme ça. Il y a une vraie problématique de la capacité des États à garder le monopole de la violence légitime.
Alors, juste pour nos auditeurs, la Charte des Nations Unies, elle donne aux États le droit de conserver le droit de s'armer et de se défendre. En revanche, très forte restriction du recours à la force armée que les États qui ont signé la charte ont accepté.
L'article 51, c'est aucune disposition de présente charte ne retire aux États le droit naturel de légitime défense. Il y a une sorte de droit naturel de légitime défense.
Inhérent.
Aussi longtemps que le Conseil de sécurité.
Au fond, la charte n'interdit que l'agression.
Voilà, exactement.
Jean-Paul Chagnolot.
Oui, moi je suis toujours interpellé par la notion de légitime, parce qu'on répète à l'envi la formule monopole de la violence physique légitime. Alors sur le plan des relations internationales, ça a du sens, parce qu'au fond, on considère que les États sont sur le même plan et qu'ils ont la possibilité d'utiliser la violence sous les réserves fondamentales de la Charte des Nations Unies. Mais le légitime, qu'est-ce que ça signifie? Et sur le plan intérieur, c'est bien souvent un monopole de la violence physique illégitime, c'est-à-dire contesté par la population. Mais ça, le droit international ne va pas s'intéresser à ça, évidemment. Mais sur le plan de la sociologie concrète, il faut remettre en question, moi je parle souvent de la violence de la physique illégitime, et ce qui fait qu'un pays, un État comme l'Irak, mais bien d'autres, en Afrique, s'effondre parce qu'il n'y a pas de légitimité.
Est-ce qu'il y a une définition objective de la légitimité de l'État?
Ça serait à minima que ceux dont, qui sont l'objet de cette domination l'acceptent, ou il y a un minimum de consensus. On pourrait réfléchir comme ça. Mais là, quand elle est imposée, vous parliez tout à l'heure de coercition, on est bien dans cette hypothèse. Une violence physique qui est imposée, qui est coercitive, elle est difficilement acceptée, donc légitime. Enfin, on pourrait longuement discuter là-dessus. C'est le premier point. Puis le deuxième point, alors, je trouvais que ce numéro est remarquable. J'y ai juste un tout petit peu contribué, mais c'est pas moi qui l'ai conçu, et je trouve que c'est vraiment très bon numéro. J'avais juste une remarque tout à l'heure qui était, on n'a pas parlé de la justice transitionnelle. Or, la justice transitionnelle, c'est très important parce que dans la nature des guerres telles qu'elles sont aujourd'hui, à la fois asymétriques, civiles, etc., eh bien, on essaie ensuite de réparer. Quand un pays a été complètement déchiré, on essaie de mettre en place la justice transitionnelle. Ça veut dire trois choses. Ça veut dire d'abord que on part du principe de l'impunité. Il n'est pas question que ceux qui ont commis des crimes soient... absous de leur crime, donc il faut qu'ils payent d'une certaine manière. Alors ça peut être conditionnel, c'est compliqué, mais c'est le premier temps d'une justice transitionnelle. Le second temps, mais qui va dans la même dialectique, c'est on reconnaît le droit des victimes, on répare sur tous les plans ce que les victimes ont subi. Et ce qui s'est passé en Afrique du Sud, par exemple, c'était assez remarquable de voir comment Edmond Tutu a organisé l'accueil des victimes dans les commissions Conciliation et Vérité. Il les accueillait, il les embrassait. Il y avait une empathie humaine extraordinaire. Et il y avait ensuite une espèce de dialogue impossible, quelque part, entre la victime et puis le bourreau. Et puis le troisième temps de la justice transitionnelle, c'est essayer de penser un système, notamment avec une réforme de l'État, pour que ça ne se reproduise plus. Et donc, on est vraiment dans une volonté d'essayer de dépasser, sans tourner le dos justement à ce qui s'est passé, pour essayer de dépasser tout cela et arriver à une société apaisée. Et une société apaisée, c'est quand même un premier pas vers une paix. Et ça, c'est très important, et malheureusement, on l'oublie trop souvent.
Pour le moment, le bilan de la justice transitionnelle est très variable.
Bien sûr.
Quand on voit ce qui se passe au Rwanda, on peut être un peu sceptique.
Oui, mais ça fonctionne en Amérique latine.
Je suis d'accord avec vous, mais je parle de l'idée, c'est-à-dire de s'attaquer aux racines dans ce type de guerre. C'est extrêmement compliqué. Et puis, disons-le d'un mot, pour aller dans votre sens, c'est qu'une justice transitionnelle ne peut se mettre en place que dans le cadre d'un certain type de rapport de force.
Exactement.
Par exemple, l'Afrique du Sud, de Klerk Mandela, il fallait faire de chaque côté des concessions, car les forces qui avaient été au cœur de l'apartheid étaient encore puissantes, donc il n'était pas question, par exemple, à ce moment-là, de penser de l'impunité. Donc, c'est compliqué. Mais l'idée est, à mon avis, très importante.
Serge Sûr.
Jean-Paul Fagnolo a tout à fait raison. La justice transitionnelle aurait mérité d'être traitée. Mais il faut dire aussi qu'elle s'inscrit dans un cadre plus large, qui est celui de la reconstruction de l'État.
Oui, et de la société.
Oui, bien sûr, mais l'État, pour moi, ça comprend aussi la société.
D'accord.
La légitimité de l'État, elle repose sur l'adhésion, sur la fusion entre le corps social et puis l'appareil d'État. Et c'est l'effort des Nations Unies, la reconstruction des États. C'est l'objet même des opérations du maintien de la paix, maintenant, qui ont élargi beaucoup leur domaine. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que l'ONU a été capable de produire des États. Avec la décolonisation, il a encouragé la production de nouveaux États. Il y en a 4 fois plus aujourd'hui qu'il y en avait en 1945. Mais il n'a pas montré sa capacité à les reconstruire. Parce que beaucoup de tentatives pour ce faire n'ont eu que des succès limités, voire ont connu des échecs. Mais j'adhère aussi tout à fait à votre formule. Au fond, la paix ne peut s'instaurer que dans des sociétés pacifiées. Et la pacification, eh bien, ça repose sur des mécanismes beaucoup plus profonds. Et il y a un article dans la charte. La charte, je suis tout à fait d'accord avec Philippe Moreau de Farge, c'est un texte remarquable.
Ah oui, exactement.
C'est un texte actuel. Et si on appliquait convenablement la charte, il n'y aurait plus de conflit. Il y a un article qui est souvent oublié, c'est l'article 55, qui dit que pour enraciner entre les nations des relations pacifiques et amicales, il faut développer le plein emploi, la santé publique, le bien-être général. Autrement dit, c'est un programme sociétal. Et ce programme, il a été réalisé par l'Union européenne. Mais il n'a pas été réalisé sur le plan universel.
Alors justement, moi, c'est la conclusion sur laquelle j'aimerais que vous me disiez quelques mots. C'est qu'est-ce qui a fait qu'en Europe, ça fonctionne ? Est-ce que c'est aussi le caractère démocratique des sociétés européennes qui fait qu'on est là où on en est aujourd'hui, par opposition peut-être à l'ONU qui n'a pas totalement réussi non plus ?
J'en ai aussi une autre réponse qui est un peu triste. C'est que la paix a régné en Europe parce qu'il y avait deux gardiens qui étaient les États-Unis et les Soviétiques, qui se faisaient face, ils imposaient la paix. Quelque part, la paix démocratique européenne est le fruit d'une forme de paix impériale ou de co-direction impériale entre les États-Unis et l'Union soviétique.
Serge Sûr.
Moi, j'ai l'autre forme de pessimisme. Il me semble que si les pays européens ont décidé de s'unir et de renoncer à la guerre en ce qui les concernait, et là-dessus, le rôle de Jean Monnet a tout de même été considérable, c'est que c'était tous des pays vaincus. Ils avaient besoin de rédemption. Ils n'avaient pas d'autre alternative que de sortir de cette espèce de piège infernal qu'était le conflit franco-allemand. Et une des raisons pour lesquelles les Britanniques sont restés hostiles et extérieurs,
et aujourd'hui hostiles, le Brexit.
C'est qu'ils ont pensé qu'ils avaient gagné la guerre et que donc ils n'avaient pas à s'allier avec ce troupeau de vaincus. Mais en réalité, ils se sont trompés parce qu'ils ont perdu la guerre autant que tout le monde. Tous les pays européens ont perdu la guerre. Et donc, leur intérêt était de sortir de ce type de relation internationale belligène et d'entrer dans une période de paix, ce qu'ils ont fait. Le même problème n'existe pas dans les autres régions.
Jean-Paul Chagnolot.
Je crois qu'effectivement, il faut rappeler que ça a duré des siècles, la guerre en Europe. Si je prends la guerre de 30 ans comme point de départ, et avec Westphalie comme tournant important...
Elle se fait dans la guerre, l'Europe.
Donc finalement, la paix, elle surgit de la guerre. On est épuisé, il y a peut-être cet élément-là. Mais dans d'autres régions, je crois aussi que en Europe, les États-nations ont su se construire. Et aussi, il y a ça. Il y a une identité qui s'est imposée, qui s'est, je dirais... consolider et intérioriser. Dans d'autres régions, la question de la société de l'État n'est pas réglée. Et ça, c'est très important. Et quand on veut imposer un État-nation sur le modèle européen dans des régions où il n'y a pas de nation, c'est extrêmement conflictuel. Et je crois que ça, c'est une dimension très importante. On ne peut pas imaginer dans des régions où il n'y a pas une structuration politique qui est en adéquation avec la société, je ne pense pas qu'il puisse y avoir de paix durable. C'est-à-dire que nous avons importé, ou l'État-nation a été importé partout, et ça a donné des choses terribles, comme par exemple l'épuration ethnique, ou les choses comme ça. Donc on est vraiment dans ce rapport État-société qu'on discutera dans une autre émission, je suppose.
Avec grand plaisir. Je ne lance pas une autre question parce que vous êtes, à juste titre, vraiment bavard et je pense que vous avez particulièrement enrichi cette émission. Non, c'était un plaisir de vous recevoir autour donc de ce numéro de Questions internationales, la paix, illusion et réalité. Merci Serge Sûr. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef donc de Questions internationales et professeur émérite à Paris 2 et directeur de l'annuaire français des relations internationales. Philippe Moreau-Defarge, géopoliticien, ancien chercheur à l'IFRI, et j'ai bien noté qu'il y avait un ouvrage que vous aviez écrit à paraître en janvier 2020 qui s'intitule « Histoire mondiale de la paix » et Jean-Paul Chagnolot, professeur émérite des universités, président de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Louise Calédec et Nathalie Laporte. Demain, nous parlerons de l'OTAN et des défis de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord à quelques jours du sommet de Londres des 3 et 4 décembre prochains. À demain. Lundi sur RFI.